Merci en tout cas. Je sais pas, depuis le début, je me sens hors sujet par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin. Non pas que c'était pas intéressant, mais donc je vais essayer quand même de recoller un certain nombre de morceaux et de m'intéresser à l'articulation recherche et formation. Alors, je vais parler. J'ai vu que personne n'a respecté ce matin, depuis ce matin, les consignes. Philippe Astier a fait appel à des personnes extérieures pour pouvoir défendre sur la dernière question en mathématiques. Mon directeur de l'UFM de Clermont, d'Auvergne, devait parler par rapport à la conférence de la CDUFM, et puis en plus, c'était plutôt en première personne après. Donc la table ronde, c'était pas une table ronde, mais plutôt une table un peu rectangulaire. Donc là, je me donne toute liberté, et je vais essayer quand même régulièrement de revenir sur cette problématique de l'articulation recherche-formation. Le premier temps quand même, parce que je vais donc parler de travaux de recherche qui se développent en IUFM. Je vais quand même en profiter quelques instants pour rappeler, puisque ça a été dit tout à l'heure au niveau du CREAD, nous avons la chance à l'UFM d'Auvergne d'avoir un laboratoire, le laboratoire PAEDI, qui est un laboratoire qui est constitué depuis 12 ans maintenant, qui a été plan pluriformation, qui est passé jeune équipe et qui est maintenant équipe d'accueil dont je suis responsable depuis que Roland Guagoum l'a cédé, en tout cas avec un tuilage ces dernières semaines. Donc là, pour nous, c'est un des atouts majeurs quand même par rapport aux questions de la professionnalisation et la possibilité d'exister au niveau de l'université avec une équipe d'accueil, avec 30 chercheurs titulaires qui sont sur des questions de l'enseignement, de l'apprentissage et de la formation. Je ne vais pas les citer tous, évidemment. On pourrait repérer des gens comme Roland Guagou, Marc Golinas, Didier Jourdan et d'autres, et bien d'autres, avec quand même 3 ou 4 thèmes qui apparaissent comme des éléments forts en termes de signalétique, des didactiques plurielles, des didactiques de maths, de français, etc. Des parcours des enseignants débutants. On est beaucoup centré sur la notion même de parcours d'enseignants débutants. Pour les gens intéressés, je pourrais vous proposer une plaquette par rapport à un colloque qui a lieu en fin d'année sur Clermont, mais également éducation à la santé avec l'équipe de Didier Jourdan, et puis ensuite l'expérience des pratiques corporelles avec l'équipe STAPS qui a été réintégrée. Ça fait une trentaine d'enseignants-chercheurs, une vingtaine de personnes associées, dont beaucoup de thésards. C'est quand même une grosse équipe uniquement sur des questions d'enseignement, de professionnalisation, et je crois que ça crée une unité par rapport, en termes de visibilité, de compétences par rapport à cette UFR. Alors si mon directeur est optimiste, je pense qu'on a quand même quelques raisons dans le panorama français d'être optimiste, mais en étant quand même très prudent, parce que ça va se négocier au jour le jour, en fonction des UFR, et tout le travail reste à faire. Voilà, donc c'était la partie un peu pour présenter un laboratoire sur les questions d'enseignement. Alors, je vais donc revenir sur la notion de recherche et formation, la décliner, et j'espère que cela mènera un certain nombre de questions et de réflexions. La première, pour moi, c'est de s'attacher à comprendre ce que pourraient être les recherches en IUFM pour la formation. Et je voudrais simplement me positionner assez rapidement par rapport à une volonté d'être non instrumentalisé en termes de recherche, c'est-à-dire qu'à la fois non indexé par rapport à la seule efficacité, comme si il pouvait exister, en tout cas je me fais ici référence à Van der Maren, un certain nombre de connaissances directement assimilables qui pourraient suffire pour favoriser l'efficacité des enseignants, mais également des recherches non ligotées par les intérêts des seuls commanditaires institutionnels. Ici, la voie est peut-être étroite, la crête des cimes est peut-être difficile, mais il me semble qu'il faut arriver dans une perspective de recherche et formation en IUFM à tenir les deux bouts, à accepter quand même de travailler au plus proche des professionnels. Vous parlez tout à l'heure de sens commun. Je ne vais pas systématiquement revenir sur les personnes, parce que je vais m'y perdre un peu par rapport à un certain nombre de citations qui me semblaient tout à fait fécondes aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de sens commun, d'éléments pragmatiques par rapport à ça, par rapport à des questions des professionnels, mais aussi une volonté quand même de s'affranchir et d'être un peu indépendant ou autonome par rapport à un certain nombre d'instances institutionnelles et de prescriptions institutionnelles. Alors, moi, dans cette perspective-là, le programme de recherche que je mène et la réflexion plus globale que j'essaye d'appréhender, c'est de me situer dans une double perspective à la fois scientifique, avec une rigueur épistémologique inhérente aux théories de l'activité, mais aussi d'utilité sociale, concrète, pragmatique. J'aurais assez envie de dire parler de formateur réflexif, ensuite dans la diade entre formateur et chercheur, et de chercheur un peu pragmatique, pour essayer de trouver des synergies entre ces personnes-là. Avec donc une double fonction, pour moi, qui est une fonction épistémique de production de connaissances par rapport au travail enseignant. Je suis complètement dans cette perspective-là, dans la veine des travaux qui ont été proposés ce matin en didactique professionnelle avec Philippe Astier, qui s'attachait à montrer la dominante du recueil de données par rapport au travail réel. Et nous sommes un certain nombre dans la salle ici, et je vais les citer non pas par allégeance, mais par rapport à réellement des personnes qui travaillent avec moi, avec des travaux qui sont relativement proches. Par exemple, Serge Leblanc sur l'UFM de Montpellier, qui est ici présent, qui travaille dans cette même veine de compréhension du travail réel. Frédéric Soja et son équipe sur Marseille, qui travaillent également dans cette même perspective, qu'elle soit clinique, d'ergonomie cognitive, peu importe ici. On est sur des théories de l'activité, avec un fondement scientifique sur l'activité, pour essayer progressivement de produire des ressources pour la formation. Ceci, dans une réflexion plus large, avec l'INRP, notamment avec Françoise Caro, pour la construction de ressources pour la formation à partir de travaux pragmatiques, de recueil, concernant éventuellement la nouvelle professionnalité ou l'émergence d'une professionnalité enseignante dans des réseaux éducation prioritaire. Donc, fonction épistémique de production de connaissances, de ressources, mais également fonction transformative pour favoriser des processus de professionnalisation, de transformation, qu'ils soient en formation initiale, continue, voire éventuellement en établissement. On pourra y réfléchir ensuite. On est bien dans un double mouvement de production de connaissances et de visée transformative. Alors, j'essaye de me situer dans cette perspective-là, dans une voie, pas tout à fait récente, mais qui peut être rappelée ici, de recherche contextualisée. C'est lisible ou pas ? Pas du tout. En essayant de dépasser l'opposition entre recherche fondamentale, recherche appliquée, dans le champ de l'éducation. Ici, en faisant référence à Durubella, 2004, Marcel et Rayou, qui ont produit un collectif assez intéressant sur la recherche contextualisée en enseignement, également Antoine Pro en 2001. Il s'agit donc d'arriver à dépasser le sens commun, à produire un certain nombre d'éléments intelligibles avec des cadres scientifiques, sans pour autant rendre ces travaux hégémoniques et sans penser pour autant que l'application de ces connaissances-là suffirait pour pouvoir enseigner. Alors, je reprendrai bien la citation de Jean-Marie Barbier, qui insistait sur le fait que ces recherches-là, qui ont une vocation quand même pragmatique, devraient correspondre à des réponses situées, à des questions sociales, des questions situées également. Alors, l'une des pistes, et c'est dommage que Philippe Astier ne soit pas là, parce qu'on aurait pu en discuter un peu, c'est éventuellement de se saisir de l'activité à partir des théories de l'action. On a parlé tout à l'heure du CREAD de Bretagne, avec Gérard Sansévi. On est dans la même veine, finalement, de recherche, même si lui est beaucoup plus dans une perspective didactique. On va s'intéresser à l'activité. L'activité comme unité d'étude, selon une triple pertinence, une pertinence écologique, puisque comprendre l'activité, c'est comprendre les phénomènes qui se développent en situation, très concrètement, phénomènes d'adaptation, de renoncement, de construction de connaissances, d'apprentissage, en fait, que ce soit au niveau des élèves, mais aussi des enseignants. C'est aussi une pertinence culturelle pour essayer de comprendre les doxas, les raisons d'agir, les didactiques qui constituent un certain nombre de croyances et voire de présupposés, de conceptions au niveau des enseignants, mais aussi une pertinence scientifique pour pouvoir étayer par un cadre rigoureux cette recherche-là et produire un certain nombre de connaissances. Alors, double, vous repérez ici le parallélisme, avec une double ambition, c'est donc produire des connaissances scientifiques rigoureuses, ça fait à peu près trois fois que je dis, et se servir de ces ressources, de ces artefacts pour la formation, en fonction des besoins pragmatiques des enseignants en formation. Pour essayer de trouver ce dénominateur commun, cette possibilité de mailler à la fois les intérêts des chercheurs et des praticiens. Alors, là aussi, hein, je ne joue pas sur les mots, mais je fais référence à un travail initiatique et important pour nous de Barbier et Durand 2004, dans un numéro spécial, numéro 42 de la revue Recherche et Formation, hein, de l'INRP, où ces deux auteurs avaient insisté sur le fait, et je crois que c'est là aussi, hein, l'une des exigences à avoir en termes de recherche, c'est d'arriver à dépasser le sens commun, à dépasser les allants de soi, que nous véhiculons tous, c'est donc ça, pour pouvoir progressivement reconstruire une intelligibilité scientifique, alors Barbier dit ça autrement, je vais simplement l'évoquer, d'une sémantique de l'activité à une sémantique d'intelligibilité de l'activité, où on va essayer, tout simplement, à partir de catégories de l'activité, après un travail d'entretien ou d'autoconfrontation, de remodéliser, de reconstituer la complexité de l'activité en, par exemple, en repérant ce qui fait signe dans l'action, c'est-à-dire les éléments significatifs pour la personne. On est dans une perspective phénoménologique où on va, au-delà des comportements, essayer de comprendre le monde des enseignants, le monde des élèves à partir de là. C'est par exemple, dans cette veine phénoménologique, repérer les connaissances, repérer les émotions, repérer les préoccupations. Pour faire encore plus clair, c'est peut-être repérer au cours de l'année de formation des professeurs stagiaires, le flux, la transformation des émotions en classe, leur construction de connaissances pragmatiques dans la classe, ce sont des connaissances en acte qui émergent dans l'action, mais aussi leurs préoccupations typiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette perspective qui est phénoménologique, idiosyncrasique, on arrive quand même assez facilement à repérer des éléments typiques d'une communauté, celle des enseignants débutants, par exemple, ou des stagiaires en formation. Donc cette perspective-là nous permet de dépasser les allants de soi qui nous écrasent quelque part et qui, finalement, transforme notre façon de voir la classe pour pouvoir, à partir de ces éléments même d'un corpus, reconstruire autrement l'activité. Je vais vous donner des exemples pour vous expliciter cela. Alors, on est bien sur la production de connaissances, sur le travail réel. Dans le travail avec Françoise Caro, avec Frédéric Soja, avec Patrick Rayou, sur Créteil, sur Marseille et sur Montpellier, on essaye de, par exemple, de produire des connaissances sur les enseignants débutants, sur le travail en rare, en réseau ambition réussite, pour essayer de comprendre ces nouvelles formes d'activité professionnelle. On est bien dans une sorte de perspective anthropologique ou ethnographique, où on va être dans les classes, où on va observer, enregistrer, pour ensuite participer à la renormalisation des prescriptions de l'information initiale. Qu'on soit clair. Le but ici n'est pas de conformer ou de former les enseignants débutants à partir du travail réel, ce qui serait à mon avis absolument une sorte de serpent qui se mordrait la queue, hein, ça serait totalement tautologique. On est dans une perspective où on va essayer de rediscuter avec des formateurs ce que l'on repère comme émergent en situation professionnelle réelle, notamment pour ma part sur les jeunes enseignants débutants du second degré dans des établissements difficiles, de réseaux en mission réussite ou d'éducation prioritaire. Comprendre leur façon d'agir, comprendre comment ils s'adaptent aux situations quand même relativement difficiles et considérer peut-être que ces premiers pas, dans des contextes très difficiles, correspondent à des éléments assez intéressants, augurant peut-être de l'évolution de la professionnalité. Ici, il faudrait en discuter plus longtemps. Et dans cette perspective-là, peut-être que certains se sentent complètement désarçonnés par rapport à ça, en disant où sont les enjeux didactiques, où sont les connaissances curriculaires par rapport aux disciplines. Ce qui nous semble important, et je crois qu'on est dans une, on a dépassé l'ère des ennemis de la colline, et on arrive largement avec des didacticiens, notamment Gérard Sansevi ou d'autres, à discuter la pertinence de cette appréhension-là, où on va essayer de comprendre non pas les enjeux didactiques pour les enjeux didactiques, mais de comprendre ces enjeux didactiques à l'aune des enjeux de l'activité, de ce qui se joue dans la classe, concrètement, corporellement, cognitivement dans la classe. Pour faire plus simple, je m'interroge par exemple au contenu d'enseignement mobilisé par les enseignants débutants pour essayer de repérer leur façon de vivre la classe et la façon dont ils utilisent ces éléments appris en formation initiale. Ça oblige quand même à recomposer les enjeux même des questions didactiques et de s'apercevoir que ces enseignants débutants recherchent de la stabilité dans un environnement toujours précaire, instable, et que parfois certains mettent entre parenthèses les possibilités d'apprendre. Et on retrouve ici la perspective proposée par Entre les murs, hein, au niveau des différents enseignants débutants, et en tout cas Philippe Mérieux a bien fustigé cette possibilité-là. On se retrouve avec des enseignants qui construisent cette paix sociale, mais qui sont incapables réellement de favoriser ou d'amorcer les conditions pour l'apprentissage. C'est un état, mais il faut évidemment réfléchir avec des didacticiens par rapport à ça. Donc j'essaye, dans la mesure du possible, dans ce programme de recherche et en collaboration avec des didacticiens, par exemple de l'UFM de Clermont, Guagou, Margolinas, etc., j'essaye de à deux regards, de comprendre à la fois cette stabilité-instabilité, ces îlots de stabilité de l'activité débutante, et de voir les questions didactiques, les savoirs didactiques mobilisés par ces enseignants et les effets sur les élèves, évidemment, en termes d'apprentissage, de comportement et d'apprentissage. Alors, voilà des possibilités, enfin, je les ai dévoilées un peu rapidement, mais je vais donner quelques exemples plus concrets, de recherches qui, pour moi, pour ce programme de recherche, sont des pistes possibles, fécondes, prometteuses, mais à réinterroger. Aucun dogme par rapport à ça. Pour la formation en IUFM, et après, je vais essayer de m'interroger sur la pertinence de ces matériaux-là pour la formation de formateurs, pour l'usage même que pourraient en faire des formateurs. C'est par exemple, alors je ne vois pas du tout ce que vous voyez, j'ai pas de rétroviseur, c'est par exemple de constituer un observatoire de l'activité novice, mais aussi un conservatoire de l'activité expérimentale. On l'a souligné plusieurs fois ce matin, pour à la fois comprendre l'émergence d'une nouvelle professionnalité par rapport à des enseignants nouveaux sociologiquement, selon Agnès Van Zanten et Patrick Rayou, mais aussi de conserver ce qui devrait être conservé, conservable, c'est-à-dire des pratiques expérimentées absolument efficaces que je repère dans l'Académie Créteil, dans des établissements où la moyenne d'âge est de 27 ans, la plus ancienne ou la plus chevronnée à peine une trentaine d'années, et avec des pratiques étourdissantes d'efficacité qui forcent le respect de tout le monde, des chercheurs, des formateurs, des enseignants stagiaires, etc. Donc c'est comprendre l'activité professionnelle. Alors je vais essayer de me balader pour le rendre un peu plus vivant, de ces professeurs expérimentés, mais aussi comprendre l'activité débutante par rapport à ce potentiel de développement, comprendre toute cette signification en acte qui sont pour nous des éléments forts en termes de conservatoire. C'est éventuellement comprendre, étudier l'activité professionnelle des enseignants débutants sur des longs termes. Ici, simplement, à titre d'illustration, un flux à l'année des moments de confort, inconfort, semaine par semaine d'une jeune néo-titulaire à Garcia Lorca, sur un établissement donc sur Saint-Denis. C'est une enseignante qui n'est absolument pas en difficulté, mais ce qu'il faut faire, au-delà du flux phénoménologique qui peut être comme ça surprenant, intéressant à discuter, prenons le temps, et c'est une thèse en cours, de repérer les émotions typiques, de repérer les thèmes qui apparaissent, la relation aux élèves, la construction progressive sur l'année de cette relation aux élèves, la façon d'utiliser les contenus disciplinaires, la façon de lutter tous les jours contre la fatigue, contre l'usure précoce, la façon de repérer assez rapidement les moments les plus opportuns pour se protéger en classe. Comprendre cela, pour moi, cette modélisation, c'est forcément réfléchir en amont à la responsabilité des formateurs dans un IUFM pour préparer, anticiper et réfléchir à ces conditions mêmes d'exercice du métier. L'idée n'est pas ici de plomber l'ambiance, excusez-moi si je le fais, par rapport à la formation, mais de réfléchir à partir de ces éléments anthropologiques ou ergonomiques pour comprendre ce métier et ses évolutions. Après, ça va être, par exemple, de modéliser des expériences typiques. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. Modéliser des expériences typiques, c'est-à-dire qu'au-delà des parcours singuliers et des conditions d'exercice différentes, on peut assez rapidement repérer, selon des indices d'efficacité, des comportements, des actions, des activités plus ou moins efficaces. Alors, pour à la fois comprendre la dynamique de transformation intra-individuelle, c'est-à-dire le chemin, le parcours, comment se métamorphose, j'aime bien cette vision d'un principal de sens commun qui me disait « c'est assez impressionnant » sur tous ces jeunes profs qui arrivent, qui débarquent des académies faciles, les deux tiers se métamorphosent alors qu'un petit tiers se résigne et abandonne quasiment le métier. N'oublions pas que actuellement en Angleterre ou aux États-Unis, c'est 40 à 50% des enseignants qui abandonnent le métier dans les 5 premières années. Ça veut dire qu'il y a une déperdition énorme, qu'il y a une usure précoce incroyable, et qu'à un moment donné, la recherche, pour moi, a une vocation publique, sociale, politique, pour essayer de montrer, de faire un état des lieux de ce métier, de prévenir les pouvoirs publics, bien évidemment, mais aussi de réfléchir, puisqu'on ne peut pas, nous-mêmes, en tant que chercheurs, modifier, transformer les contraintes de ce métier, anticiper quand même un certain nombre de réflexions fécondes au niveau de PLC2, de professeurs stagiaires, en formation initiale. Et donc, c'est de repérer des problématiques ou des activités problématiques, non pas des problématiques de recherche, mais des activités problématiques ou des activités innovantes. Alors, je vous donne simplement un exemple de matériaux qui sont des matériaux de recherche. C'est une modélisation de la recherche dont il faudrait maintenant évaluer, tester l'usage en formation. Qu'on soit, enfin, je voudrais être clair sur ce point-là. Pour moi, ce travail de recherche, de modélisation, est possible qu'à partir d'une immersion totale dans ce métier, entre les murs, depuis une dizaine ou douzaine d'années. Ça ne peut pas être le travail d'un formateur qui n'a pas ce temps-là. Après, il faut réfléchir de façon assez constructive d'un point de vue éthique, déontologique, mais aussi par rapport à l'usage de ces matériaux-là en formation. Alors si je tiens par exemple la notion d'activité, on voit ici qu'à chaque fois, il y a une sorte de... Ici, ma souris bouge derrière. Une collection qui serait une sorte de frise développementale. Je m'intéresse à quoi ici, sur cet exemple-là? Je m'intéresse à une des problématiques ou un des points noirs des enseignants débutants. Si on repère les travaux sociologiques l'entrée dans le métier sur les enseignants débutants, faire ses classes, hein, de la ZUECH Grimbert, c'est ça? La ZUECH et... La ZUECH, Grimbert, il me manque le troisième. 2008, travaux sociologiques très intéressants. On se retrouve, pour eux, 5 ans après, les enseignants débutants ont encore des problèmes pour entrer en classe, faire entrer les élèves en classe et mettre les élèves au travail. C'est une problématique récurrente pour eux, c'est un point noir quotidien, notamment dans ce genre d'établissement où il faut recommencer toutes les heures à remettre en place la forme scolaire. Le fait de mettre les élèves au travail, qui est simplement une condition pour qu'il y ait apprentissage, devient une finalité sur l'heure entière dans certains cas. À partir de là, même si ce n'est pas une des thématiques a priori nécessaires pour des professeurs stagiaires qui sont dans des établissements plus faciles, elle va le devenir, cette problématique-là. Et c'est souvent, on s'en est aperçu de ça par rapport à un certain nombre d'évaluations de nos processus de formation, que c'est à partir du mois de février, lorsque le débutant, le stagiaire, pianote et confirme son vœu sur l'académie de Créteil ou Versailles, même si pour moi il y a des invariants qui dépassent les enjeux d'académie de Créteil et Versailles, il va être, tout d'un coup, il va se saisir de cette problématique-là en disant, dans mes classes, c'est encore assez facile, mais il faut absolument que je me prémunisse de ce problème-là. La recherche m'alerte de cela. Mes copains ou les enseignants des années précédentes, effectivement, m'ont pointé cette difficulté-là. Donc j'essaye de repérer, j'ai une vidéo qui est ici une vidéo typique et qui n'est pas interchangeable, mais qui correspond à mon meilleur représentant de cette catégorie début, avec là du débordement, du chahut, etc. Et je vais comme cela progressivement décliner des activités plus efficaces, beaucoup assez spectaculaires, avec des transformations d'une même personne sur plusieurs mois, et éventuellement des activités qui font à chaque fois la différence en termes de critères d'efficacité, mais également par rapport aux composantes de l'activité. Donc j'essaye de mettre en vis-à-vis un verbatim. Je me préoccupe pas du tout du contenu de la leçon, je suis inquiète, j'ai eu 2 accidents cette semaine, on est en EPS, mais pas seulement. Les élèves n'adhèrent pas à l'exercice, je change, inutile d'insister. On est sur les premiers pas, sur le renoncement, la construction à peine de la paix sociale. Et ce qui m'intéresse, c'est de repérer les composantes de l'activité et éventuellement de voir la place des savoirs, des curriculums par rapport à leur activité. Alors ça donne par exemple cela, progressivement, une sorte de modélisation après avoir passé des centaines d'heures dans la classe, après avoir enregistré des dizaines et des dizaines d'enseignants avec des confrontations et sur un suivi à long terme, on arrive à repérer des niveaux qui sont très différents les uns des autres, avec par exemple, excusez-moi pour ces jargons, des niveaux 1 où on est dans de la surnégociation, avec des renoncements, avec de la construction de la paix sociale. Les savoirs scolaires sont entre parenthèses. Ça peut durer, on est sur l'entrée en classe, ça peut durer 10 minutes au mieux, jusqu'à 60 ou 55 minutes. Et puis après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a des transformations. Il y a souvent des réactions à l'opposé par rapport à ces premiers niveaux. Je vais très très vite. Où on voit qu'on instrumentalise les savoirs ou les modèles didactiques, éventuellement véhiculés en formation initiale, pour en faire des configurations structurantes de l'activité des élèves, pour se donner du temps, pour se trouver des espaces et pour stabiliser un peu l'activité anxiogène de ces enseignants débutants. Les savoirs sont instrumentalisés, ils n'ont que pour vocation la protection des enseignants débutants. Alors on retrouve ces béquilles, ces façons de faire, et je pourrais les décliner, mais je ne suis pas ici en train de faire une formation de formateur, ou en tout cas une formation des professeurs stagiaires. Et c'est tout à fait intéressant de repérer d'un point de vue ergonomique les situations les plus favorables, quelles que soient les disciplines, ou spécifique à telle ou telle discipline, qui favorise la stabilité en classe et qui permettent aux enseignants de commencer à mettre, à retrouver un peu d'aise dans la classe, en disant là c'est parfait, c'est calme, ça me va très bien. Le but, c'est pas du tout, on n'est pas sur les apprentissages, mais on est simplement sur une sorte de répit ou de recherche de ces îlots de protection. Et puis après, il y a d'autres activités, mais j'ai pas le temps de décliner, qui permettent de voir comment les enseignants débutants se réapproprient les enjeux didactiques pour pouvoir, par tout un processus de légitimisation, ils arrivent à tenir la classe avec beaucoup de coups, beaucoup d'énergie. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de mettre en contraste l'activité de plus expérimentée, c'est ces spécimens rares qui tiennent le coup dans ce genre d'établissement pour arriver à comprendre les dynamiques potentielles de transformation de ces enseignants débutants. Dans cette perspective-là, on n'est plus en train d'opposer systématiquement les débutants et les experts, ce qui sert strictement à rien pour moi, autant au niveau des années de formation initiale qu'au niveau de cet observatoire de la pratique débutante, voire plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la dynamique de transformation, c'est-à-dire comprendre pourquoi cette personne-là qui est hyper réactive, qui ferait réagir tout le monde, et j'ai fait réagir déjà des centaines de personnes par rapport à des personnes véhémentes, radicales dans leur façon d'être, comprendre que c'est un état, c'est une figure, c'est une forme dans un processus plus long de professionnalisation. Comprendre cette hyper-réactivité, c'est comprendre son laxisme en début d'année ou l'année précédente, c'est comprendre ses formes de protection de soi, et c'est comprendre qu'elle va changer également, et que ma vidéo a quelque part une durée de péremption nette, puisque cette personne-là va complètement dépasser cette façon d'être en classe. Voilà, donc c'est pour moi, si je résume un peu où j'en suis, il me semble qu'un chercheur engagé sur ces questions-là, en sciences de l'éducation, ou peu importe, en ergonomie cognitive ou en anthropologie, peut, et avec un travail associé hein, de didacticien, peut réinterroger le travail naturel, le travail réel, et envisager en formation un certain nombre de boucles. Alors, j'ai presque fini mon exposé. C'est donc travailler sur ce conservatoire, observatoire des pratiques débutantes en milieu difficile, pour l'objet qui me concerne, en collaboration avec l'INRP, donc j'en ai parlé tout à l'heure. C'est donc en proposer cela, non pas livrer tel quel, mais réfléchir à la façon de segmenter, de sélectionner des éléments parmi ce corpus. À mon avis, on ne peut pas faire cela sans qu'il y ait une confrontation très claire entre des chercheurs et des formateurs, voire éventuellement d'un point de vue personnel. Des fois, ça m'arrive aussi d'être formateur et chercheur, donc là, il y a aussi des questions à régler que je n'évoquerai pas longuement tout de suite. C'est donc voir comment, sur quels matériaux, on va pouvoir envisager de constituer des artefacts pour la formation. Alors, par rapport à ce que disait Philippe Astier, quelque part, on peut bien imaginer que dans un IUFM, la recherche soit un peu au service des personnes en formation. À partir de là, la vidéo qui est celle, par exemple, d'une enseignante de maths, Sevran Livry, lycée professionnel, réseau ambition réussite, devient un objet de formation, avec des scénarios que je ne vais pas évoquer là, c'est pas mon but ici. Ça peut être en formation générale, mais aussi en formation didactique. De plus en plus, à l'UFM d'Auvergne, nous essayons de créer des couples formation générale, formation didactique. C'est-à-dire qu'on en est arrivé à ce point-là où le responsable du département d'histoire-géo me dit « Luc, il me faudrait des matériaux sur... » Alors, c'est peut-être un peu instrumentaliser la recherche, mais je le fais avec plaisir. « Il me faudrait des matériaux du néo-titulaire ou d'un néo-titulaire en histoire-géo sur Créteil. » Je dis « Ok, on essaie de faire ça ensemble. » Et on va co-intervenir, cette fois-ci-là, pour, d'un côté, avoir un spécialiste des questions didactiques en histoire et géographie, et de l'autre, avoir un spécialiste des enseignants débutants à partir d'une modélisation de l'activité typique de ces enseignants débutants, de leurs problèmes récurrents, etc. Et on mène de concert cette analyse qui dépasse les enjeux didactiques et qui dépasse largement, simplement, la formation générale. Et après, c'est encore plus important pour moi, c'est d'essayer de faire une recherche. Alors, qu'on soit clair, ici, c'est... Enfin, je vais essayer de l'être, en tout cas. C'est de proposer des dispositifs de formation à partir de matériaux d'un corpus de recherche, mais ensuite de faire un travail de confrontation, d'entretien, peu importe la méthode, pour saisir, évaluer les effets mêmes de cette activité, éventuellement analyse de pratique en co-intervention didactique générale, pour pouvoir voir les effets sur le processus de transformation des professeurs stagiaires. Pour moi, et pour un certain nombre d'entre nous, le fait d'embarquer régulièrement des recherches sur les effets de la formation me semble totalement nécessaire à l'heure où on parle actuellement, pour essayer de rendre un peu rigoureux ce qui se fait dans les IUFM. Non pas de façon pseudo-scientifique, mais en essayant de repérer les impacts, les situations les plus intéressantes, les plus porteuses a priori, et éventuellement de hiérarchiser dans le temps ces différentes situations professionnelles ou vidéos qui pourraient éventuellement devenir des offres pertinentes par rapport à la formation. Ceci pour pouvoir, à terme, in fine, redéfinir un dispositif de formation à partir de ces résultats de recherche embarquée. Alors, pour vous donner un exemple, nous le savons tous, lorsqu'on demande à un enseignant stagiaire d'auto-analyser sa propre vidéo, c'est un drame pour lui d'un point de vue personnel. Il faut accepter de se voir, il faut accepter d'être... Et c'est pas du tout évident, c'est peut-être simplement au bout de l'année de PLC2 qu'ils en sont capables. Donc il faut travailler par procuration, il faut travailler sur des espaces typiques ou des activités typiques. Alors, ça pourrait donner... je veux bien ne pas laisser ce mot-là, si ingénierie vous gêne, c'est plutôt une sorte de programme technologique hein, par rapport... pour articuler recherche et formation... Et par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est d'essayer de retrouver ces espaces de fécondité, d'intéressement entre des stagiaires, des chercheurs et des formateurs. Alors, peut-être assez facile hein, de ma part, mais j'essaye quand même d'avoir cela régulièrement en tête lorsque je suis formateur à l'UFM et chercheur aussi, à d'autres égards, à d'autres moments. C'est de considérer que la recherche peut produire des éléments, des modélisations, je vous en ai fait voir à peine quelques-uns tout à l'heure, de l'activité typique des débutants. Plutôt, alors... Il n'y a pas du tout, pareil, de monopole par rapport à la recherche. On peut imaginer que des professeurs formateurs travaillant en établissement ont une vision assez nette quand même des tendances typiques, des raisons d'agir, des façons de faire, etc. Mais il me semble que, comme je disais tout à l'heure, on peut faire gagner du temps quand même en tant que... Puisque mon boulot, c'est d'être chercheur des enseignants débutants. Je pense notamment aux travaux... Mais d'autres travaux se développent. Le travail que fait Patricia Tavigno avec Vitorsky sont bien dans cette même veine où il va y avoir un certain nombre de recherches, de modélisations du travail débutant, du travail enseignant débutant, les travaux de Frédéric Soja et d'autres. Donc on peut éviter que les enseignants débutants arpentent seuls en découvrant toutes les difficultés qu'on pourrait prévoir ou anticiper. Pour moi, en disant attention, l'année prochaine, vous allez avoir ce type de problème-là. Ça passe pas en septembre, ça passe à partir de janvier-février. Surtout si on fait avec eux un stage dans la région parisienne et qu'on coordonne une formation de formateurs de nos formateurs de Clermont sur Paris pour pouvoir embarquer à la fois une formation des professeurs stagiaires, mais aussi une formation de formateurs et mener cela de concert. On peut leur faire gagner du temps, on peut les prévenir, on peut anticiper, on peut regarder les solutions efficaces. Il y en a des solutions efficaces. Dans ce développement des activités typiques d'entrée en classe, il y a très nettement des solutions efficaces qui ne s'apprennent pas de façon immanente, mais sur lesquelles on peut travailler pour comprendre ce qui se joue dans cette situation-là. On peut déconstruire les situations. À partir de là, pour que ça rencontre les enseignants débutants, les professeurs stagiaires, il faut travailler, me semble-t-il, c'est pas une injonction hein, catégorique, mais il me semble pertinent de travailler sur leur activité problématique, leur point noir, pour développer ici un intérêt manifeste, alors que je me suis un peu cassé le nez des fois sur des professeurs stagiaires qui disaient « Oui, mais Luc, tes vidéos de Créteil, elles nous parlent pas, parce qu'on n'en est pas là pour l'instant, on a d'autres publics. » Donc les vidéos de Créteil, elles viennent à point nommé, à un temps T, qui n'est pas forcément celui de leur début d'année. Donc il faut travailler en tout cas dans cette interface-là et ensuite, évidemment, repérer les situations fécondes, l'activité féconde avec la connaissance même du curriculum, des compétences à acquérir tout en tenant compte du développement professionnel de ces enseignants débutants ou de ces professeurs stagiaires. Alors ce qui me semble important, c'est cette dynamique ici, la dynamique temporelle, c'est-à-dire qu'en gros, cet espace-là, ce dénominateur commun... va complètement évoluer au gré de la construction de l'activité des stagiaires durant l'année, voire en année en début de métier. Je conclue. Je vais simplement conclure sur quatre points, et après j'espère qu'il y aura quelques questions, réactions par rapport à ce type d'articulation recherche-formation dans un UFM. Je viens de le dire plusieurs fois, hein, c'est pour moi de construire ces espaces de dialogue entre chercheurs, formateurs et praticien, pardon. Et c'est vrai qu'on a la chance, et moi je suis assez optimiste également dans cette UFM d'Auvergne, on va arrêter après, hein, parce qu'on va... Nous, on a des problèmes plus graves, hein. On s'est aperçu qu'il y a des gaz qui sortent d'un certain nombre de volcans et qui ont moins de 10 000 ans, et on est plutôt préoccupé par des problèmes d'éruption volcanique que de perte de survie des UFM. Excusez-moi. Il me semble qu'ici, il faut générer ce dialogue, et il faut que toute l'équipe des chercheurs se mette non pas au diapason, mais soit prêt en tout cas à écouter les attentes des professeurs stagiaires, et qu'on crée ces points de jonction. Des modélisations, des offres pour la formation, des artefacts pour la formation. Parlons du conseil pédagogique, parlons des pratiques réelles et non pas simplement par rapport à des pratiques idéales du conseil pédagogique. Et puis plein de recherches ont montré la limite du conseil pédagogique. Passons du temps à créer des études systématiques par rapport aux effets des processus de formation sur les stagiaires, pour qu'on ait un peu un regard vigilant et objectif par rapport à ce que l'on génère. Quand je vois des formateurs qui disent « c'est super, ça s'est super bien passé », moi j'en ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête des gens. On ne pourra jamais contrôler un dispositif de formation et mesurer les effets de ce dispositif sur leur développement professionnel. Peut-être qu'une vidéo, à un moment donné, va devenir un élément référent pour le jeune prof en situation difficile. Ça m'arrive souvent qu'ils reviennent me dire hier, on a vu ça avec toi, et dès le lendemain, j'ai vu cette situation-là. On peut imaginer qu'il y a tout un travail d'imprégnation par rapport à d'analyse vidéo. On a parlé des différents moyens d'apprendre ce matin avec Philippe Astier sur plusieurs temps par rapport à la réflexion sur l'activité. Très souvent, il se transpose, il revoit une situation où on voit que la simulation faite sur vidéo les a préparés par rapport à une situation de classe réelle qu'ils rencontrent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir à tous les coups, bien entendu. Et des fois, il faut 5 ans pour que le conseil de l'IUFM devienne un peu pertinent ou soit interprété autrement. Et je finis sur l'idée que j'ai déjà énoncée tout à l'heure. Pour moi, l'organisation des curriculums ou curricula doit se faire non pas simplement par rapport aux compétences à acquérir, mais par rapport à ces cibles formatrices qui prennent à la fois en compte les préoccupations des enseignants stagiaires, des professeurs stagiaires ou des enseignants débutants, et qui prennent en compte, d'un point de vue développemental, l'évolution des préoccupations, des émotions, des connaissances, etc. Voilà pour cette présentation un peu à chaud, mais qui nécessite d'être retravaillée par rapport à la problématique donc des formateurs et du métier de formation qui ne se décrète pas, qui s'apprend. Voilà.